Bonsoir à tout le monde et bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Eh bien voilà, donc retour comme tous les mercredis, 20h-21h, l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes. Et traditionnellement, on fait quelques annonces par-ci, par-là. L'émission. Eh bien, on va commencer par ça.
On commence donc par ça. Donc, on vous propose ce vendredi 1er avril à 19h au Palais du Travail de Villeurbanne, une réunion débat avec Makis Anagnostou, travailleur dans l'usine autogérée Viomé. Donc voilà, Viomé, donc c'est le nom d'une usine de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, devenue un symbole de résistance à l'austérité et de lutte pour la sauvegarde de l'emploi. Donc on vous donne rendez-vous là-bas le 1er avril à 19h au Palais du Travail de Villeurbanne. Ensuite, si vous ne voulez pas aller à Villeurbanne, mais vous pouvez préférez rester dans le 7e, il y a un concert à la librairie La Griffe, au 5 rue Sébastien Rive, dans le 7e, concert du groupe Anti-Quarks. Et le troisième petit rendez-vous que je vous donne, c'est un ciné-débat sur Return to Homs, Retour à Homs de Talal Derki. Ce sera le 3 avril. Je vous lis un peu le résumé de ce film. Été 2011, Abdel Basset Sarout, footballeur de 19 ans déjà renommé, devient à Homs l'un des leaders des manifestations pacifiques qui, tous les vendredis dans les rues, brave le régime de Bachar el-Assad. Ses chansons improvisées contre la dictature enflamment la jeunesse de la ville. Il est le meneur d'une fougueuse bande de Shabab jeunes, décidés à en découdre avec le régime, peu à peu sous ses yeux et ceux du réalisateur Talal Derki, alors que le régime cible la population civile, les jeunes dissidents se transforment en guerriers. Donc voilà, donc cette soirée, elle organise en collaboration avec le cinéma Le Lem, au profit des actions soutenues par l'association Alwan auprès des enfants déplacés en Syrie. Ce cinéma Le Lem, c'est 62 avenue du 8 mai 45 à Tassin la demi-lune. Donc voilà, bah écoutez, voilà, on vous donne rendez-vous là-bas aussi si vous souhaitez y aller. Puis je te laisse la parole du coup pour notre annonce.
Et alors l'annonce, ben c'est la même que ces deux dernières semaines puisqu'elle est importante.
Tout à fait.
C'est une projection débat, un panorama du droit à l'avortement en Europe qui nous est proposé par le collectif de défense de l'IVG dans le Rhône. Il y a plusieurs signataires, donc la CGA, bien sûr, il y a aussi le planning familial. Donc panorama du droit à l'avortement en Europe, il y aura une projection débat, disais-je, avec une projection du documentaire Yo, Decido, El Tren de la Libertad. J'espère que j'ai pas trop écorché la langue espagnole. C'est un documentaire donc signé par 80 réalisatrices. Le documentaire Yo, Decido raconte la mobilisation des pro-choix en Espagne et ailleurs pour le droit à l'avortement. Donc le lieu de cette projection, de ce panorama, de ce débat, de cette conférence avec un décryptage des lobbies anti-choix européens aura lieu donc ce 4 avril, donc c'est lundi prochain à 18h au Grand Amphi de Lyon 2 sur les quais. Voilà, je n'ai pas l'adresse exacte, mais enfin, tout le monde connaît quand même le Grand Amphi de Lyon 2 sur les quais. Voilà, donc il sera question où les femmes peuvent-elles avorter, quelles nouvelles avancées, quelles régressions, qui sont les anti-choix, quelles sont leurs stratégies et leurs actions. Donc il faut se documenter là-dessus, c'est absolument important. Bon, enfin, je le dis, parce que oui, ça m'importe aussi, donc, et ça l'est tout à fait. Voilà, donc c'est ce lundi 4 avril à 18h. Il y aura une seconde une conférence qui se passera le 7 avril, mais on le rappellera donc la semaine prochaine encore une fois, le jeudi 7 avril à 19h30 au Palais du Travail, au 9 place du docteur Lazare Goujon à Villeurbanne. Voilà pour ce qui est des annonces et on va pouvoir attaquer donc cette première page et cette grande journée du 31.
De demain, on l'espère, grande journée, on l'espère. Comme vous le savez sûrement, la mobilisation continue contre la loi travail du gouvernement après les manifestations du 9 mars, du 17, du 24. Donc il y a un appel ce jeudi 31 mars, demain, à manifester à partir de 13h30 au départ de la manufacture des tabacs jusqu'à la place Bellecour. Donc voilà, un appel à manifester en espérant qu'il y aura autant, voire plus de monde que le 9 mars. On s'en souvient, il y avait à peu près 500 000 personnes dans toute la France. Donc on espère que ça va de nouveau se bouger, que tout le monde va se motiver. C'est vrai que le 17 et 24, c'était plus des mobilisations lycéennes et étudiantes qui avaient réussi à garder le mouvement plutôt en bonne forme. Et donc là, c'est un appel du coup intersyndical, interprofessionnel avec du coup les AG de lycée et les AG étudiantes. Donc voilà, donc c'est le rendez-vous donc ce 31 mars à 13h30. Pour vous dire aussi que bien sûr la journée de demain est importante, mais pas que, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer, qu'il va falloir enchaîner sur d'autres mobilisations ou voir d'autres formes de mobilisation. Il y a déjà un appel qui est fait pour occuper des places le soir du 31 mars un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à lire les infos là-dessus pour avoir les lieux où ça va se passer, en espérant aussi qu'après les mobilisations vont se multiplier. On se rappelle, c'était un des points faibles de 2010, avec un peu la CFDT aux manettes, avec des manifestations beaucoup trop espacées pour que ça puisse lâcher au niveau du gouvernement. Là, il y a déjà des appels, il me semble, qui traînent pour le 2, pour le 5, voire pour le 9. Donc on espère que voilà, ça va s'enchaîner et que surtout qu'il va y avoir d'autres choses de mise en place que des manifestations. Pour bosser un peu là-dessus, il y a en ce moment même un meeting unitaire à la Bourse du Travail, à l'appel de CGT, FO, FSU, Solidaires, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature et malheureusement l'UNEF, mais bon, on n'aura pas un grand poids là-dedans. Donc voilà, ça se passe en ce moment pour justement préparer la suite. On peut vous conseiller aussi un petit bulletin de lutte à lire, ça s'appelle FAC en lutte. C'est édité, c'est un bulletin de lutte de la Fédération des syndicats solidaires étudiants et étudiantes. Je vous lis un petit peu l'édito de ce quatrième numéro, donc qui est sorti le 28 mars. Actualité oblige, ce FAC en lutte porte sur la répression, déjà palpable la semaine précédente, elle est encore montée d'un cran cette semaine. De nombreux cas de violences policières ont ainsi été constatés et filmés. La vidéo d'un lycéen à Paris et d'un manifestant à Nantes tabassé par les CRS ont circulé, ainsi que les images des violences devant l'université Paris 1, jeudi 17 mars. Le gouvernement semble plus qu'inquiet de voir des gens refuser le résultat du simulacre de négociation autour de la loi travail. Dans un registre moins brutal, les directions des universités et des lycées se rendent complices de cette répression en fermant les établissements ou simplement en laissant les CRS rentrer frapper des étudiants et étudiantes. La violence de l'État n'entamera pas notre détermination. Tous et toutes dans la rue le 31 et ce ne sera que le début. Nous aussi, on espère que ce sera le début. Donc ce petit bulletin est plutôt bien fait. C'est un petit recto verso avec tout ce qui se passe au niveau de l'état de la mobilisation, notamment dans les facs et les lycées. On voulait aussi vous parler d'un appel qui commence à bien circuler et qui est plutôt intéressant parce que ça parle de blocage économique. Ça paraît être la suite logique de tout ça, parce qu'ensuite, manifester dans la rue, ça peut marcher. Mais le problème, c'est qu'après, si on ne touche pas à l'économie, et ben généralement, il ne lâche rien. Donc voilà, je vous lis un petit peu le petit tract qui a été édité sur un site onbloquetout.org. Le projet de loi El Khomri est une insulte au monde du travail. Rarement l'attaque aura été aussi grave. Avec l'inversion de la hiérarchie des normes qui permet aux accords locaux au rabais obtenus sous la pression de se substituer aux accords de branche, en lançant l'offensive contre l'outil syndical avec la promotion des référendums bidons en entreprise, en organisant et en généralisant la précarité, la flexibilité et en facilitant les licenciements, c'est une dégradation majeure du temps et des conditions de travail de millions de salariés que prépare activement le gouvernement. À nous de nous préparer tout aussi activement à l'en empêcher. Tout ce que mérite un tel projet de loi, c'est une riposte déterminée et massive des travailleuses, des travailleurs du privé comme du public qui doivent converger et de la jeunesse. Et pour ça, c'est le blocage de l'économie qui est à l'ordre du jour. Le 9 mars, nous étions des centaines de milliers à battre le pavé. Pour nombre de salariés qui composaient la majorité des cortèges, la grève s'imposait. Et depuis le 17 mars, journée nationale de mobilisation appelée par les organisations de jeunesse, des dates de grève dans différents secteurs professionnels sont annoncées. Le 24 mars, donc ça date un peu, le 24 mars, donc il y a eu Une nouvelle journée de mobilisation. Le projet de loi sera est donc présenté en Conseil des ministres. En ce moment, il va passer devant l'Assemblée dans pas très longtemps, avec sans doute donc quelques effets d'annonce destinés à faire croire que la copie a été revue. Nous le disons tout net, le projet de loi n'est ni amendable ni négociable et seul son retrait total s'impose. Et donc enfin, le 31 mars, la grève Interpro est à l'ordre du jour. Cette grève doit être activement préparée, ce qui était plutôt le cas, parce qu'on a eu un écho notamment d'un syndicat avec des dizaines de milliers de tracts distribués cette semaine. Cette grève doit être donc activement préparée et nous pouvons profiter pour ça du calendrier d'action qui se dessine jusque-là pour renforcer la mobilisation et surtout pour bloquer l'économie. Ce qu'il faut, c'est d'abord réussir la grève du 31 et préparer sa généralisation et sa reconduction partout où c'est possible dans les jours et semaines qui suivront. Alors nous obtiendrons le retrait du projet de loi El Khomri. Alors nous pourrons préparer la contre-offensive, notre contre-offensive, en popularisant des revendications qui permettent de rassembler, sur lesquelles les équipes syndicales pourraient s'engager ensemble à la base et dans l'unité, la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, sans réduction de salaire ni flexibilité, sans arnaque à la clé comme l'ont été dans de nombreux secteurs les 35 heures au bris. Voilà par exemple ce qu'il est urgent de mettre en avant pour contrer les dégradations des conditions de travail et imposer des créations d'emplois. Tout cela, nous nous engageons à le mettre en débat auprès de nos collègues, dans les structures syndicales, dans les intersyndicales auxquelles nous participons. Nous sommes certains et certaines que ces préoccupations nombreuses et nombreuses sont les syndicalistes qui les partagent. Quelles que soient les appartenances syndicales, nous les appelons à rejoindre cet appel et en proposer la signature à leur structure. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'appel, qui a été édité sur le site onbloquetout.org, signé par pas mal de monde déjà. Je voulais vous lire aussi donc le tract de la coordination des groupes anarchistes pour cette mobilisation du 31. Donc du coup le titre c'est pour les faire céder, c'est maintenant qu'il faut lutter, avec un sous-titre: la loi travail c'est travailler plus pour gagner moins, trois petits points, quand t'es pas au chômage. Voilà qui résume bien le projet de la loi El Khomri. Ce ne sont pas les entre guillemets concessions gouvernementales qui vont changer la logique de ces mesures destinées à satisfaire les aspirations du patronat. Pire, certaines entre guillemets avancées comme le compte personnel d'activité, le fameux CPA dont se targue la CFDT, contient en germe le retour au livret ouvrier en instituant un fichage généralisé des salariés. Tout ça relève d'une comédie bien orchestrée. Les syndicats jaunes signent les accords en ayant obtenu des concessions entre guillemets. Le MEDEF fait semblant de râler et le gouvernement se présente comme l'arbitre impartial défendant l'intérêt général. Vaste fumisterie. L'objectif de la loi, se retrouver seul face à son patron. La loi travail renverse donc la hiérarchie des normes, on en a déjà parlé mais on le refait, en donnant la primauté aux accords d'entreprise par rapport aux accords de branche et au code du travail. Les accords d'entreprise pourront bien être moins favorables aux salariés que les accords de branche ou que le code du travail. On va vers une, entre guillemets, ubérisation du travail, à savoir des salariés atomisés et entre guillemets libres de définir les termes de leurs contrats avec leurs employeurs, on sait bien ce que ça veut dire. Pour celles et ceux déjà concernés par des oppressions et des chantages liés au patriarcat et au racisme, c'est l'assurance d'une aggravation de ces violences. L'histoire sociale montre qu'isolés, les salariés sont perdants-perdantes face aux aspirations antagonistes des patrons. C'est au contraire la reconnaissance d'intérêts communs entre salariés, le sentiment d'appartenance à une même classe qui permettent aux salariés de mener des luttes collectives, solidaires et d'arracher des droits aux patrons et à l'État. Ce projet de loi poursuit précisément le but inverse. Il s'agit de détruire ce qu'il reste des conquêtes sociales arrachées durant le XXe siècle par les salariés afin de donner tout pouvoir aux patrons. Et donc il n'y a pas de fatalité, souvenons-nous des luttes contre le plan Juppé en 95 et contre le CPE en 2006 qui ont fait reculer les gouvernements. Face au rouleau compresseur libéral, la solution se trouve dans la construction du rapport de force sur des bases de classe et de masse. Nous devons construire un mouvement fédérant salariés, précaires, chômeuses-chômeurs, étudiantes-étudiants, lycéennes-lycéens, apprentis pour stopper la régression sociale et le gouvernement dans ses aspirations sécuritaires. Notamment avec l'état d'urgence et les lois antiterroristes, entre guillemets. Pour gagner, il faut renouer avec des méthodes plus offensives comme les occupations des lieux de travail, les blocages des centres économiques névralgiques, etc. Il faut aussi et surtout que les grèves deviennent massives, qu'elles s'étendent et s'ancrent dans la durée pour augmenter le rapport de force de façon décisive. Pour étendre le mouvement, construisons un mouvement uni à la base avec ceux et celles qui ne veulent plus subir. C'est par l'autogestion de nos luttes que nous pourrons rester unis et impulser nous-mêmes le mouvement sans dépendre du rythme des bureaucraties syndicales. Cette lutte contre la loi travail doit lancer un mouvement social de classe qui a pour projet la transformation directe de la société et ne la délègue plus aux politiciens. C'est à partir des mouvements sociaux que doit se construire la gestion directe et égalitaire de la société, de la production et de la distribution des biens et des services. Dès maintenant, au sein des luttes, faisons l'apprentissage de décider et gérer collectivement les mobilisations pour demain, prendre en charge le fonctionnement de la société, débarrasser du capitalisme et de l'État. Voilà pour le tract de la CGA, et il nous semblait bon de rappeler en ces temps un petit peu... on avait beaucoup de textes un petit peu anti-syndical, anti-organisation sur le net, et donc on voulait revenir, nous, pour ce pourquoi nous luttons dans les mouvements sociaux. Ça peut être important de le rappeler, notamment pour ce mouvement-là. Donc voilà, on va vous rappeler tout ça. Nous défendons la dimension collective de la lutte. Cela n'exclut pas les initiatives individuelles, mais cela signifie que nous mettons en avant la force collective que procure le fait de s'associer pour lutter, la force supplémentaire qu'amène la solidarité et l'entraide face au pouvoir. Nous défendons la nécessité de s'organiser pour lutter, ce qui découle directement de la nécessité de s'associer. S'organiser, cela veut dire se donner les moyens de prendre des décisions collectives, mutualiser les moyens, notamment matériels, pour démultiplier nos capacités d'action. Selon la nécessité, l'organisation peut être ponctuelle ou s'inscrire dans la durée. Nous ne fétichisons pas les organisations en tant que structure, mais nous défendons la nécessité de s'organiser. Nous défendons la nécessité de s'organiser avant, pendant et après la lutte. Nous considérons que les luttes émergent d'une convergence entre une révolte ponctuelle et la diffusion préalable d'une autre manière de voir que celle du pouvoir. C'est pour cela que nous travaillons à l'insertion sociale de l'anarchisme et que nous refusons une logique suiviste qui consisterait à ne participer aux luttes que lorsqu'elles sont à leur pic. Nous considérons qu'il est nécessaire de participer à la construction des luttes car c'est à ce moment-là que se joue le succès futur de celle-ci et la possibilité plus ou moins grande de développement de dynamique d'auto-organisation. Nous défendons comme mode d'organisation donc l'auto-organisation des exploités en lutte. Cela signifie que l'organisation n'est pas imposée par une minorité dirigeante ou d'autres organisations, mais c'est un choix volontaire des participantes et participants de la lutte. Cela peut passer, selon le cas, par la constitution de comités de grève, d'assemblées générales, de coordination, d'assemblées populaires, mais cette dynamique passe aussi par la lutte pour la démocratie directe et le fédéralisme au sein des organisations préexistantes à la lutte, à savoir les syndicats, les assos et les collectifs. Pour nous, l'auto-organisation ne prend pas son sens réel que par le refus de la hiérarchie, de la division dirigeant-dirigé, ce qui suppose la prise de décision par la collectivité en lutte au moyen du vote décisionnel et non de l'élection, et non par une avant-garde élue ou auto-proclamée. La mise en œuvre des décisions doit être aussi portée collectivement. Nous défendons l'organisation formelle, que nous ne confondons pas avec le légalisme, parce que nous pensons que la formalisation des modes de décision permet d'identifier les lieux et les rapports de pouvoir, le décalage entre le fonctionnement souhaité et le fonctionnement réel, et donne ainsi la possibilité de rectifier les dysfonctionnements, de combattre les logiques de domination en les identifiant, de contrôler le pouvoir. Nous pensons aussi que l'organisation ne peut se concevoir de manière localiste sous peine de voir se maintenir les dynamiques dirigistes à l'échelle extra-locale, nationale, voire internationale, pour coordonner les différents niveaux d'organisation sans reproduire la distinction dirigeant-dirigé. Et en maintenant le cadre de décision collective, nous défendons le fédéralisme, la pratique du mandatement contrôlable, révocable et de la rotation des mandats. Nous défendons la complémentarité des tactiques, c'est-à-dire le souci permanent non d'opposer a priori les tactiques dès lors qu'elles s'inscrivent dans une volonté émancipatrice, mais de travailler à leur complémentarité réelle, c'est-à-dire qu'elles se renforcent mutuellement. Cela ne signifie pas une juxtaposition de tactiques sans prise en compte de celle des autres, qui n'est que source de conflits et de divisions, mais la construction d'une complémentarité entre tactiques différentes et la solidarité face à la répression. Par exemple, là, il y a un exemple pour la lutte des sans-papiers, les investissements, qu'ils soient dans des collectifs locaux, dans une stratégie syndicale ou dans une approche plus globale contre les frontières, ne s'opposent pas, mais se renforcent si ils se nourrissent les uns des autres et qu'ils sont tournés vers une perspective à des mots d'ordre communs. Par rapport au rapport de force, nous pensons que la lutte ne peut marquer des points que si elle développe le rapport de force. Pour nous, ce rapport de force ne se situe pas pour l'essentiel dans l'opinion publique, qui est une construction médiatique. Il se situe à la fois dans la diffusion des idées opposées à la domination auprès de nos collègues, nos voisins, trois petits points, mais aussi et surtout dans le basculement de ceux-ci, de la passivité à l'action collective de confrontation avec le pouvoir. Cela signifie taper au portefeuille des patrons et actionnaires en s'en prenant à la bonne marge de la production par la grève, le blocage, l'occupation, le ralentissement de la production, etc. Cela signifie aussi défendre l'idée que l'État n'est pas un partenaire, un interlocuteur neutre, mais un ennemi dans la lutte au service de la bourgeoisie et qu'il faut construire un rapport de force par rapport à celui-ci également. Nous nous opposons aux velléités de récupération par les bureaucraties, minorités dirigeantes d'organisations syndicales et par les politiciens. Cela signifie défendre l'idée que la lutte ne voit pas son débouché dans les élections mais dans ses succès propres, sur son propre terrain. Cela signifie refuser que la lutte soit le terrain de construction de carrière politique, d'ambition électorale. Nous défendons dans les luttes les revendications de rupture, c'est-à-dire celles qui mettent intrinsèquement en cause les systèmes de domination, celles qui construisent les possibilités d'une remise en cause globale des systèmes de domination. Les revendications de rupture sont pour nous un moyen de dépasser l'opposition entre revendications immédiates et revendications révolutionnaires conçues comme antagonistes, en développant des dynamiques qui relient ces deux revendications, l'un renforçant l'autre plutôt que l'affaiblissant. Par exemple, la lutte pour logement oppose la possibilité pour tous et toutes de bénéficier d'un toit et le système capitaliste de propriété privée. Non seulement les gains de cette lutte permettent d'améliorer nos conditions de vie, mais ils permettent également d'attaquer les fondements idéologiques de la société capitaliste. Et enfin, au niveau éthique, la construction des luttes passe pour nous par le respect des autres personnes en lutte, ce qui signifie le refus du sectarisme, ce qui n'empêche pas la critique ferme et déterminée, des injures et de l'usage de la violence pour régler les conflits politiques internes au mouvement de lutte émancipateur. Donc voilà, il semblait important de revenir là-dessus, mais j'ai pas fini, je lâche pas le micro tout de suite. Non, par rapport, voilà, par rapport au texte qu'on peut lire un peu partout là, il y a un texte nous qui nous semble intéressant et qu'on aimerait lire, on espère qu'il sera publié sur le net, parce qu'il y a aussi des petits problèmes de publication certaines fois. C'est une réflexion, voilà, ça se trouve sur le blog Lacets Rouges et Vernis Noirs, c'est une réflexion sur la violence, entre guillemets, en manifestation. Pour les personnes qui n'auraient pas remarqué, on est dans une période de mouvement social contre la loi travail. Je ne vais pas m'épancher sur le fait que cette loi est pourrie, y a-t-il vraiment beaucoup de gens pour la défendre, ni même sur la bouffée d'espoir que suscite un mouvement social un peu massif après des années de reculs sociaux sans grande lutte. Dans ce petit billet, je voudrais plutôt m'attarder sur une question qui revient régulièrement lorsqu'il y a une lutte d'ampleur, c'est-à-dire le rapport aux moyens d'action, à la violence entre guillemets, et aux manifs plan-plan entre guillemets. Ceci parce qu'il me semble avoir vu passer un certain nombre de textes appelant à l'insurrection qui vient, enfin, comme Le Monde ou Rien, publié sur plusieurs site. En résumant à la hache, ces textes disent en substance, pas besoin de massification et de manif plan-plan, mais des actions déterminées. La question, c'est pas celle de la massification, c'est celle de la justesse et de la détermination. Chacun sait que ce qui fait reculer un gouvernement, ce n'est pas le nombre de gens dans la rue, mais leur détermination. La seule chose qui fasse reculer un gouvernement, c'est le spectre du soulèvement, la possibilité d'une perte de contrôle totale. Ça, c'est extrait du texte. Je ne vais pas spécialement disséquer ce texte, ni les autres, et encore moins parce que c'est compliqué d'en parler dans un article public, la mise en pratique concrète dans des actions. Je voudrais simplement exprimer une réflexion actuelle, mes réflexions actuelles, donc c'est pas moi, c'est issu du blog, hein, sur la violence et les manifs ronronnantes et le rapport entre les deux. Une note sur le terme violence. J'emploie le terme violence parce que c'est celui qui est souvent utilisé, même s'il me paraît assez problématique sur un certain nombre de points. Le fait de casser du matériel qui appartient non pas à des individus mais à des entreprises ou institutions relève-t-il vraiment de la violence ? Les défilés en masse, même parfaitement légaux et en bon ordre des homophobes de la Manif pour tous, me semblent personnellement plus violents, de même que les licenciements massifs d'Air France me semblent plus violents que la chemise arrachée à leur DRH. Il serait peut-être plus judicieux de parler d'illégalité, mais ça ne me paraît pas non plus être la bonne catégorie. Ce n'est pourtant pas le genre d'action. Peut-être pas non plus la bonne catégorie. Par exemple, l'enquête sur Tefal d'une inspection du travail a été condamnée comme illégale. Ce n'est pourtant pas le genre d'action discutée ici. Il faudrait plutôt parler d'action qui a des chances d'être réprimée de manière brutale. Comme c'est un peu long, je vais rester sur les termes de violence, tout en admettant qu'il n'est pas terrible. Il y a régulièrement des discussions sur l'utilité de la violence. Pour schématiser les deux visions opposées, on aurait d'un côté les gens hyper légalistes, pour qui tout débordement, même dont la violence est relative, nuit à l'image du mouvement, de l'autre des gens pour qui la violence est le seul outil révolutionnaire et tout le reste des conneries de réformistes. Personnellement, je pense que la violence au sens large est un outil comme un autre, parfois utile voire nécessaire, il ne faut pas le nier, et en même temps pas un truc à fétichiser pour détourner un dicton, quand on a un marteau entre les mains, tout ressemble à une vitrine à péter. Il me semble que le recours à la violence a surtout deux intérêts. D'une part, permettre d'atteindre un objectif politique tactique, occuper un lieu, poursuivre une manif, bloquer quelque chose, et d'autre part, permettre d'avoir une plus grande confiance en soi. Elle comporte en revanche des risques. La question est donc de savoir au cas par cas si le jeu en vaut la chandelle, tout en admettant que des personnes ou des groupes différents auront sans doute là-dessus des réponses différentes. La violence est parfois utile, voire nécessaire, pour atteindre un objectif politique précis. Par exemple, si tu sais qu'une manifestation contre l'état d'urgence est interdite, il n'y a que deux choix, l'annuler ou la maintenir dans un cadre où tu sais qu'il y a de forts risques de répression. Si tu veux manifester alors que les flics veulent t'en empêcher, il y a un affrontement qui paraît assez inévitable. En revanche, j'aurais tendance à penser que la fétichisation autour de la violence physique, de l'insurrection, etc., ce n'est pas forcément ce qui permet le mieux d'atteindre ses objectifs. Par exemple, pour poursuivre une manifestation interdite, il sera sans doute plus efficace de réussir à contourner les keufs en se limitant à quelques bousculades plutôt que de partir dans une confrontation frontale avec eux à coups de jets de pierre et de cocktails Molotov. Certes, cette deuxième option est plus spectaculaire, peut-être plus jouissive, je ne sais pas, mais les policiers étant en général mieux armés et mieux formés, elle a plus de chances d'aboutir à un face-à-face stérile qui s'éternise et à un nombre élevé d'interpellations sans forcément permettre la poursuite de la manifestation. Certes, le face-à-face peut en soi être un objectif politique tactique, mais j'avoue que ce n'est en général pas le mien. Je pense qu'il faut garder en tête les objectifs qu'on a avant de fétichiser les moyens d'action. Je parle évidemment en termes d'analyse à froid. Évidemment, la réaction qu'on a quand on se prend une volée de gaz lacrymo et un coup de tonfaille de manière assez compréhensible, un peu plus impulsive et moins réfléchie, ou d'en dénigrer d'autres. Par exemple, on peut critiquer les manifs plan-plan avec des ballons syndicaux. En attendant, si le but est de bloquer temporairement une ville et d'être visible, une manifestation massive, même plan-plan, sera plus efficace que 50 personnes hyper déterminées en face à face pendant 2 heures avec la police dans une ruelle. La très médiatisée affaire des caténaires qui a entraîné une fumeuse enquête antiterroriste tendrait à faire oublier qu'il y a eu bien moins de trains bloqués ainsi que par une seule journée de grève des cheminots et cheminotes. Les formes d'action violentes sont légitimes et peuvent être utiles, mais il me semble important de ne pas surestimer leur efficacité sous prétexte que c'est la chose qu'on va retenir d'une manifestation ou que ça procure une montée d'adrénaline. Un autre aspect non négligeable des actions violentes ou directes, j'ai vraiment du mal à trouver un bon terme, c'est que ça permet de prendre confiance, de réaliser qu'on a de la force et qu'on peut parfois faire autre chose que baisser la tête. Entendons-nous bien, je parle de prise de confiance et de force collective, autrement dit en quelque sorte d'augmenter une conscience de classe, ou peut-être confiance de classe. Par exemple, pour les actions anticapitalistes, réaliser qu'on peut reprendre du pouvoir dans sa boîte face à son patron, pour les actions féministes, réaliser qu'on peut riposter face aux machos, etc. Par conséquent, le but est de faire en sorte que cette prise de confiance puisse toucher un maximum de personnes, même si pas forcément au même degré, et pas que ça concerne une forme d'élite ou uniquement une catégorie très limitée de personnes. Pour le dire crûment, des groupes capables d'une super violence viriliste révolutionnaire face aux flics et aux fascistes, s'ils ne sont constitués que de mecs blancs hétéros en bonne santé qui font des entraînements 2 fois par semaine, je ne trouve pas ça hyper intéressant. J'irais même plus loin, je pense que c'est assez dangereux parce que l'expérience m'a montré que souvent, les mêmes gars étaient aussi capables de violence face à leurs meufs, des camarades lesbiennes, etc. Si on se bat pour une société où on est tous et toutes à égalité, ce n'est pas pour que ça se passe à la trappe dès que ça devient un peu chaud. De même, si on garde en tête que le but est de développer une mise en confiance collective, le corollaire, c'est de faire gaffe à ce que les moyens choisis ne conduisent pas des personnes à repartir chez elles précipitamment parce qu'elles sont flippées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument avoir une bonne image ou quoi, mais prendre en compte qu'on n'a pas toutes les mêmes, pas tous et toutes le même rapport à la violence, les mêmes capacités physiques, que parfois il y a des personnes qui peuvent pas faire garder leur gosse, alors elles viennent en manif avec, etc., etc., et faire en sorte de ne pas les mettre en danger. Et évidemment, pour rejoindre ce que je disais juste en haut, d'éviter les insultes sexistes ou homophobes face à la police. Sur ce sujet, le blog conseille, et nous aussi on vous le conseille, le texte « Non, les keufs ne sont pas des PD ou des enculés », à voir sur Rébellion notamment. Minimiser les risques, ce qui rejoint un autre aspect, à partir du moment où on a à se confronter, même éventuellement à la répression policière, il y a la question des risques. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que tout le monde ne prend pas les mêmes, une personne sans papier n'encourt pas les mêmes risques à finir en garde à vue, une personne trans ne subira pas les mêmes violences de la part de la police, une personne en mauvaise santé ou enceinte n'encaissera pas les coups ou la lacrymo de la même façon. Par conséquent, il me semble important de faire le maximum pour les minimiser, que ce soit pour le groupe de personnes qui participent à l'action, mais aussi pour les autres, notamment dans le cas d'actions qui ont lieu en marge des manifestations. Certes, on ne peut jamais tout prévoir, notamment la réaction des keufs, mais on peut au moins limiter les risques. C'est une chose de participer à une action en sachant qu'il y aura des risques, c'est en être une autre quand les gens qui l'organisent ne prennent pas la peine de te prévenir de tel ou tel aspect ou décident de partir en courant alors que toi tu ne peux pas les suivre. C'est aussi important de faire en sorte que des personnes se sentent mieux ou moins mal lors d'une action, avoir du sérum physio après un envoi de lacrymo, rassurer quelqu'un qui est au bord de la crise d'angoisse, parfois juste avoir pensé à prendre une bouteille d'eau, prendre soin les unes et les uns des autres, c'est aussi un truc qui est super important. C'est certes moins spectaculaire qu'un affrontement physique avec les flics, mais personnellement, je sais que des souvenirs positifs que je garde de manifs chaudes, c'est avant tout cela. Je voudrais finir en revenant un peu sur la massification et sur le fait que c'est parfois mis en opposition avec des actions plus radicales. Je pense vraiment que c'est une erreur, d'abord parce que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux participer à une manif plan-plan le matin, il y a une action violente l'après-midi, mais au contraire, je pense que ça se nourrit, en tout cas ça peut. Il y a plein de gens qui participent au début uniquement à des manifs calmes, puis vont prendre confiance pour d'autres moyens d'action. De même, le fait qu'il y ait des actions plus péchues peut aussi motiver des gens à soutenir le mouvement sans participer directement à ces actions, mais en venant des manifestations, en posant des jours de grève, etc. Il me semble qu'on peut reconnaître l'intérêt des actions dites violentes tout en admettant qu'elles ne sont pas forcément accessibles de la même manière à tout le monde. Bref, faire en sorte que chacun, chacune puisse s'impliquer dans la lutte en fonction de ses capacités, ses envies, etc. plutôt que de dresser un portrait très restrictif et au final un peu élitiste du vrai militant radical. Parce qu'en fait, le mot radical, ça vient de racine et que s'attaquer à la racine du problème, c'est pas juste le spectacle du cocktail Molotov qui explose sur un commissariat, mais aussi tout le travail à long terme pour soutenir des salariés dans leur entreprise, faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des tâches hommes-femmes pour éviter que des meufs se retrouvent à ne pas pouvoir participer à la lutte parce qu'elles doivent s'occuper des enfants et des tâches domestiques, défendre l'égalité et combattre les oppressions au quotidien, etc. Bref, peut-être qu'il serait temps de sortir de la dichotomie entre condamner les méchants, méchantes casseurs, casseuses et mépriser les manifestants, manifestantes, pépères. Ouh. Donc voilà pour ce texte, parfois fort intéressant par rapport à ce qui peut se dire en ce moment sur le net. Donc on vous conseille l'autre texte, hein, non, les flics ne sont pas des PD, des enculés. Et aussi parce qu'on ne fait pas non plus... Autant on fait pas de l'antisyndicalisme, autant on n'est pas, on sait aussi les problèmes qui peuvent exister dans les syndicats, notamment les bureaucraties et notamment les deux problèmes. Enfin, du coup, les deux problèmes que moi j'ai entendu parler, donc le problème à Paris et sur Toulouse avec des lignes de service d'ordre de la CGT qui ont bloqué les jeunes manifestants, qu'ils ont presque livré aux flics. On vous conseille d'ailleurs le texte de Guillaume, un syndicaliste CGT énervé qui fait un peu le récit de la manif du jeudi 24 mars à Paris avec ce genre de problème. On n'est pas là pour défendre non plus les syndicats, on est là pour défendre la lutte collective et tout ce qu'elle englobe. Et on n'aime pas trop du coup les oppositions qu'il peut y avoir en ce moment entre les personnes organisées et les personnes qui ne le sont pas. On pense que la lutte peut être collective et qu'elle peut englober tout le monde. Voilà. Et les services d'ordre, non, ne sont pas des flics. Elles sont là aussi pour protéger les manifestants et les manifestantes, comme décrit dans le texte qu'on vient de lire. Donc voilà, désolé un peu pour la longueur. J'ai bouffé une partie de l'émission.
Ah, c'était très
bien. Je m'en excuse. On fait donc une quand petite même. Pause musicale pour récupérer tout ça avant un premier jet de lutte sociale, c'est ça ?
Oui. En fait, c'est pas une pause musicale. Ça sera un petit texte dit qui est pas très long, 1 minute 37. C'est un texte de 1890 qui est dit par Yves Mathieu. Alors, je sais pas si camarade, il est toujours en vie. Je le souhaite. Enfin bon, voilà. Donc il va nous interpréter entre guillemets, put patron.
Je suis républicain socialiste, compagnon, radical ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Je passe mon temps chez les manzingues, où ce qu'on prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent, les orateurs. Mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule d'Omal et Totor et qu'on parle de foutre tout par terre, j'applaudis d'Achard et d'Otor. C'est d'une simplicité biblique, d'abord. Faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise pendant que nous on a un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors, c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Ah, y aura plus de chef, plus de contremaître, plus de directeur et plus de patron. Mince qu'on pourra tirer sa flemme, on fera tous les jours lundi. Oui, mais s'il n'y a plus de la trompème, qui fera la paye le samedi?
Ouais, enfin, bref, la fin, c'est lui qui le dit, hein.
Ouais, c'est lui.
Voilà,
qui
donc c'est de 1890, hein, je dis bien le texte, hein, voilà.
Toujours à l'écoute d'idées noires.
Alors la trompème, c'est les patrons, hein, bien entendu. Hein, c'est un mélange d'argot et de louchébème, enfin de parler bouché, quoi. Voilà.
Comment ? Du coup, je reprends. Vous êtes toujours à l'écoute donc d'idées noires. L'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et donc, nous allons passer aux luttes sociales. Donc, on va peut-être changer par rapport à l'habitude, vu que j'ai bouffé la moitié de l'émission. On va faire peut-être les luttes sociales d'une traite pour être sûr de pouvoir toutes les faire. Et puis, on verra le temps qui nous reste derrière pour finir l'émission.
Voilà. Donc, il nous reste quand même pas mal de temps. On est qu'à la moitié de l'émission. Donc, ces luttes sociales, il faut aller les chercher en ce moment parce que le 31, évidemment, a accaparé un peu tous les sites sur Internet, partout dans les journaux. Enfin, bref, on parlait que du 31 mars, cette grosse manif. Donc, j'en ai récupéré quand même quelques-unes de ces grèves, hein, qui sont là, hein, et qu'on le mérite d'être là aussi. Et c'est ainsi à Perpignan, c'était le 21 mars, il y a eu une grève de convoyeurs de fonds de chez cette grosse boîte Loomis qui s'est fait remarquer il y a quelques années là. C'est 20 salariés qui représentent quand même 98% hein, des grévistes de une grève qui a duré de 4 heures le matin à 14 heures. Donc, il dénonce le management, demande plus d'humanité et de considération, des revendications évidemment que les capitalistes, les patrons, pour eux sont des mots qui n'ont jamais eu dans leur dictionnaire. Et puis je pourrais ajouter aussi se faire trouver la peau pour les capitaux, voilà quoi, c'est leur choix, mais bon, on peut pas non plus cracher sur tout le monde. Il fut un temps où les convoyeurs de fonds n'étaient pas des gens très respectables. Aujourd'hui, ils sont des salariés comme tout à chacun, quoi. Voilà, mais ils transportent le capital. Et les temps sont durs. À Nevers, c'est une suite et continuité de la grève chez Look Fixation, une semaine à ce jour, pour défendre les acquis sociaux. Volé, 110 salariés qui grèvent, c'est la production qui stagne, et une production qui stagne, c'est l'arme fatale du prolétaire. Contre les patrons, bien sûr. Carcassonne maintenant, Itou aussi, c'est une suite et une continuité, donc de la grève en cuisine. C'est la cuisine centrale, 12 agents sur 17, dès 7h le matin, les conditions de travail, sécurité et organisation des horaires, voilà tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces luttes. Les 12 grévistes sont des titulaires qui ont suivi l'appel syndical, puisque la mairie en bonne patronne, parce qu'eux aussi sont des patrons, et des patronnes, ne daignent pas répondre aux sollicitations de discussion des travailleurs et travailleuses. Blagnac, c'est en Haute-Garonne, avec la ZAC Andromède, sur la ZAC Andromède, c'est Téléperformance, le leader mondial des centres d'appel. Il y a une grève le 25 mars. Alors c'est hallucinant ici parce qu'il y a 140 salariés qui bossent sur un nouveau logiciel qui les oblige à demander une autorisation écrite par mail pour prendre une pause, qu'elle soit une pause toilette ou toute autre pause, sandwich, cigarette, enfin tout ce que vous voulez. Et l'autorisation doit être acceptée, accordée par messagerie interne par le chef. Le débrayage de ce 25 mars s'est fait de 14h à 17h contre ce nouveau logiciel jugé dégradant, humiliant, infantilisant, qui touche 140 personnes sur 400 et 400 personnes qui étaient prêtes à se mobiliser pour cette cause. À Marseille, dans le 8e arrondissement, c'est une grève de femmes de chambre. Remarque que dans l'info, il n'est pas employé le terme, mais il n'est pas employé le terme de technicienne de surface. C'est différent, évidemment, femme de chambre, c'est pas pareil. Obligation donc de respecter l'échelle sociale. Grève, disais-je, donc une semaine au 28 mars avec un conflit à l'hôtel Villa Massalia. Les dames de chambre sont employées par une société sous-traitante de cet établissement Chicos. Elles exigent le paiement des heures complémentaires. Là aussi, on n'emploie pas les heures supplémentaires, mais enfin bon, complémentaires, supplémentaires. Elles exigent également de meilleures conditions de travail. 15 personnes étaient en grève. Le conflit a démarré après que la direction ait nié les revendications. C'est un tantinet dans l'impasse à cette date, bien que la CNT apporte son chaleureux soutien et concours syndical. À Paname maintenant, c'est une reprise donc du conflit à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP. Alors c'était prévu, bien sûr, un projet de réorganisation du temps de travail totalement mité, une direction qui, pendant tout ce temps de silence, doit, après avoir revu sa copie, présenter de nouveaux ajustements, là aussi, sur sa réforme. Eh bien, le CHSCT était convié à y jeter un coup d'œil, ou deux d'ailleurs, je pense que ce serait mieux d'y mettre les deux yeux. Une intersyndicale de poids et des salariés sur le terrain, prêts à sortir des tranchées, baïonnettes au canon. Je m'excuse de cette atroce image, mais enfin, comme on est en plein dans le centenaire de la guerre des 14-18, je me suis dit qu'elle serait bienvenue. C'est la bagarre dans 39 établissements avec cette intersyndicale USAP-CGT, CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA. Évidemment, la CFDT est complètement absente. Il y avait un rassemblement qui a été prévu donc le 29 mars, donc hier, au au siège. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a donné. J'ai vu quelques images. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc, contre la réforme de Martin Hirsch et de Marisol Touraine, qui vise à individualiser les horaires des travailleurs et travailleuses de la santé et n'arrangera aucunement la situation des patients et patientes, foi de professionnels de la santé. Alors, qui sont quand même une grosse poignée, hein, quand même 75 000 agents et agentes hein, dans ces établissements donc de l'APHP, qui sont 75 000 à pâtir de cette réforme de technocrates de l'économie de moyens à tout craint. Déjà, les ajustements horaires, temps de travail, effectifs, pause repas, considérés dans le temps de travail comme une compensation au dépassement horaire, sont critiqués et présentés sans amélioration sur la précédente réforme, donc cette première mouture. Voilà pour ce qui est des quelques luttes sur l'hexagone, voilà. Tout bonnement, ce que j'ai pu récupérer. Maintenant, je vais faire une petite page sur les luttes pas si étrangères, parce qu'il faut aller voir aussi ailleurs un petit peu ce qui s'y passe, et c'est étrangement identique. Par exemple, à Kaboul, en Afghanistan, avec une manif au caractère plutôt rare à notre époque, puisque des hommes dans la rue, en burqa, c'était début mars, qui défilent pour le droit des femmes et condamner le vêtement imposé aux femmes depuis 1990 par les religieux talibans. Il y a eu le même fait aussi en Turquie, je crois, il y a quelques mois, avec ce port de la jupe.
Exact.
Voilà, dans le même caractère, on va dire. Donc, à Johannesburg, maintenant en Afrique du Sud, avec une manifestation des travailleurs de l'agglomération Buffalo City, c'était fin février, pour avoir mieux, évidemment, un petit mieux sur les salaires. Pour appuyer leurs revendications, il y a eu mise en place de grèves sauvages, notamment dans la voirie, pour des primes non payées. En Algérie, maintenant, sont les conducteurs de train qui étaient mécontents et qui grèvent, pour le dire. Pas de revendications sur les salaires, mais exiger une sécurité accrue dans leur travail suite au décès d'un aide-conducteur. Cette grève s'adressait à la direction de la SNCF. Koblenz, c'est en Allemagne, bien sûr, une grève chez Amazon. Ça n'étonne plus personne maintenant, les grèves chez Amazon, c'est tellement pourri. Amené par le syndicat Verdi, ce conflit porte une nouvelle fois sur les salaires et ça dure. En Bavière, maintenant, c'est la grosse Siemens, la grosse société Siemens qui solde son personnel. En langage clair, c'est un plan de suppression d'emplois qui amorcera une délocalisation. 2000 emplois sont menacés, donc ça bouge côté ouvrier. À Bad Neustadt et Nuremberg, on a débrayé spontanément 1500 salariés et manifesté aussi leur colère. À Cotonou, maintenant, c'est au Bénin, avec les syndicats de l'éducation qui exigent du gouvernement l'application de la mesure des 25% comme indexation du salaire indiciaire. Le rappel d'un paiement de 80 000 francs CFA à tous et à tous les ayants droit, où le travail ne reprendra pas, puisque ce sont des activités donc pédagogiques. Au moins dit comme ça, c'est direct. À Liège maintenant, avec la Poste, enfin plutôt B-Poste, société anonyme de droit public, anciennement la Poste d'ailleurs, ça s'appelait la Poste dans le temps, grève des personnels des bureaux de poste contre un projet de réorganisation des services qui n'arrange que les économies faites sur le dos des salariés. Hein. On a la même chose ici, bien entendu. 20 services disparaîtront pour cependant un même travail selon la CSC Transcom, syndicat impliqué aussi dans les chemins de fer, dans la culture, le maritime, etc., etc. C'est un peu notre CFTC belge pour ses opinions cultuelles. Alors restons sur Liège encore avec cette fois les techniciennes de surface, qui exercent au palais de justice et au tribunal de police de la ville. Elles exigent du personnel supplémentaire et en urgence ou des heures supplémentaires de nettoyage pour être payées un peu mieux quand même. Un front commun syndical est arrivé à la rescousse, c'est le CSC, donc Service Public, le CGSP et le SLFP. Voilà, vous savez tout. Au Brésil, avec des personnels d'aéroports en grève, 12 de ces aéroports, des aéroports étaient donc sans activité aucune. C'était en février. Hein. Qu'est pas ça ici ? Ben, c'est une revalorisation des salaires, tout bonnement. La grève a eu une durée de 2 heures. Ils exigent une augmentation de 11% pour couvrir l'inflation qui est au Brésil à 10,5%. En restant au Brésil, on va sur Sao Paulo avec les rues qui étaient occupées. Alors là, c'était en janvier, par des manifestants et des manifestantes pour protester contre la hausse du prix du billet de transport. Alors même motif qu'en 2013, il y a eu un affrontement avec la police. La manif était à l'initiative d'un collectif qui milite pour les transports publics gratuits. Voilà.
Donc voilà.
Ma petite participation à cette émission.
Donc du coup, avant de passer à une deuxième petite pause musicale, on va faire un petit tour à Calais avec des personnes en grève de la faim. Donc à Calais qui lutte contre l'État, comme beaucoup d'entre nous. Ils luttent contre le même fascisme, comme beaucoup d'entre nous. Ils méritent le soutien de nous tous et toutes. Alors depuis le 2 mars, des activistes iraniens font la grève de la faim à Calais. Des négociations avec la préfecture ont eu lieu cette semaine et ont été un échec, mais elles continuent. L'offre de la préfecture n'était rien d'autre qu'une insulte. Toutes les demandes des grévistes de la faim ont été ignorées et à la place, ils ont eu droit à un sermon de la propagande d'État sur les fameux CAO, hein, centres d'accueil et d'orientation. Ils ont refusé de bénéficier de la procédure d'asile accélérée en France, d'abord parce que ça ne répond pas à leurs demandes et surtout parce que cette protestation est pour toutes les personnes qui sont forcées de vivre dans le ghetto calaisien, pour toutes celles et ceux qui doivent faire face à la même répression policière et à la violence fasciste. Ils ne demandent donc pas un traitement spécial pour eux-mêmes, mais un changement pour tous et toutes. Donc voilà, on vous conseille donc la suite de l'article. Je crois que j'ai trouvé sur la Horde, il y a une interview du coup de ces personnes de grévistes de la faim. C'était aussi que c'était cousu les lèvres, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'évacuation de ce que les médias appellent la jungle. Donc voilà, on vous invite à lire la suite. Et donc on va passer une deuxième petite pause musicale.
Alors, je te laisse.
Oui, du coup, donc le nom du groupe, c'est 10 rue de la Madeleine.
10 rue
de
la Madeleine. Anime.
Ouais, enfin, qui n'existe plus, mais ce groupe, mais voilà.
C'est pas pratique de penser librement et de voir braver à tout bout de temps le rouge de nos utopies, de ça pour bien vivre ou correctement ce qu'il faut suivre. Accélérer le pas, la monnaie au service de la langue des mains. Plus besoin de se taire pour qu'on ne vous écoute pas. Les multinationales auront le genre humain. Le décor, déguiser notre monde avec des mots sucrés, tout ça pour plaire au plus grand nombre. Ça me fait marrer, comme tout est maniéré. On gueule un peu, mais on ne veut surtout pas se fâcher. Le cul entre deux chaises, c'est la sainte loi du centre. Ni l'un ni l'autre, mais surtout pas ensemble. Mais surtout pas ensemble. Oui, mais faut bien vivre, ou correctement. Alors,
On trouvera bien de quoi remplir nos idées allégées, nos petites vies isolées. Et on finira tant pis en se demander au pire si tout ça n'est pas que la triste histoire d'une utopie.
Idées noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Il nous reste 10 minutes pour revoir un peu toute l'actualité. Ça va être
compliqué. Ouais. donc la dernière partie de l'émission, avec un petit retour, un article trouvé toujours sur le net, avec un retour sur la manifestation des hooligans d'extrême droite ce 27 mars en Belgique. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc dimanche, environ 300 à 400 hooligans, dont une grande partie d'extrême droite, ont pu défiler dans les rues de Bruxelles accompagnés par les flics. À leur passage, ils en ont profité pour scander des slogans tels que « On est chez nous », tout en agressant verbalement et physiquement les personnes qui ne leur revenaient pas. Ces hooligans qui tournent autour de Casuals United Belgium, ils souhaiteraient sans doute reproduire ce que Ogessa en Allemagne avait réalisé. Ogessa pour Hooligan gegen Salafisten ou Hooligan contre les salafistes qui avaient manifesté à Cologne et à Hanovre lors de manifestations islamophobes dans la même lignée que Pediga version hooligan. Un rassemblement antifasciste contre l'islamophobie et l'extrême droite est organisé le même jour que la manif annoncée par Génération Identitaire à Molenbeek. Donc sur ce site-là, il publiait donc l'appel au rassemblement qui a été lu sur le Facebook des Jeunesses Libertaires Belgique. Ce samedi 2 avril, un groupuscule raciste et fasciste, hein, Génération Identitaire qu'on connaît malheureusement bien, a lancé un appel européen en vue d'une manifestation islamophobe à Molenbeek. Si le bourgmestre, donc le maire là-bas, dit refuser d'autoriser ce rassemblement, il est clair que l'extrême droite compte faire de Bruxelles et en particulier Molenbeek le symbole de leur obsession islamophobe. Et comme dans le passé, le reste de l'échiquier politique suivra cette tendance. Pour preuve, ce samedi 27 mars, des hooligans encadrés par un noyau de militants d'extrême droite et escortés par la police ont envahi la place de la Bourse pendant les commémorations des victimes. Sur leur passage, ils ont agressé plusieurs personnes et crié des slogans racistes et nationalistes. La victoire idéologique totale de l'extrême droite s'est concrétisée dans les urnes et maintenant dans la rue. Alors que les terroristes frappent sans distinction les civils ici ou ailleurs, nous, les quelques militants et militantes musulmans musulmanes de nos organisations, considérant que les nôtres doivent assumer une double peine, celle de l'islamophobie décomplexée, violente, sexiste et institutionnelle. Nos mères, nos sœurs, nous sommes agressés verbalement et physiquement, discriminés dans toutes les sphères de nos vies. Les polémiques stériles et les discours de haine distillent la peur pour camoufler les échecs du gouvernement en matière de justice sociale, d'égalité, de politique étrangère, et cela à des fins toujours électorales. Nous refusons que la mémoire de victimes devienne le théâtre des enjeux politiciens au détriment des habitantes et habitants des quartiers et d'ailleurs. Il n'y a pas de place pour l'islamophobie dans nos rues. Alors nous disons, ne nous laissons pas entraîner, ne nous laissons pas faire, rassemblons-nous à Molenbeek pour leur montrer notre Bruxelles, notre Molenbeek, solidaire, pluriel et mixte. Nous, militantes et militants ou non, musulmans ou musulmanes ou non, habitantes ou habitants de Molenbeek ou non, initions un rassemblement pour avancer ensemble vers un monde juste et égalitaire. Pas de place pour le racisme d'État, l'islamophobie et toutes les oppressions dans nos quartiers. Ce rassemblement sera l'occasion pour les femmes et les hommes à qui on refuse bien trop souvent la parole de la prendre. Donc c'est un rendez-vous, on le donne quand même, hein, le 2 avril, 13h, place de la Bourse, donc à Bruxelles, pour répondre donc à ce rassemblement lancé par Génération Identitaire. Bon, une petite nouvelle, enfin, du coup, dans les copains, on parlait tout à l'heure à Canu Info, mais je résiste pas de le redire si vous n'étiez pas à l'écoute de Radio Canu à ce moment-là. Avec ce Stéphane Schacks, je pense qu'on dit comme ça, c'est un politicien du NPD, donc National-Démocratische Partei Deutschlands, donc c'est le parti national-démocrate allemand, donc extrême droite, voire néo-nazi, hein. Et ben, ce brave monsieur a eu, il y a quelques jours, un accident grave sur une nationale en S, région du centre de l'Allemagne, d'où il est originaire, et où il s'est présenté aux élections municipales l'année dernière, recueillant autour de 10%. Et ben, sa voiture est sortie de la route et est venue s'encastrer dans un arbre. Eh bien, ironie du sort, ce sont deux réfugiés syriens qui l'ont sorti inconscient du véhicule et lui ont prodigué les premiers soins avant d'appeler les secours qu'ils ont attendus avec lui. Encore à l'hôpital, donc ce fameux politicien néo-nazi n'a pas fait de commentaires, mais le dirigeant du NPD de Hesse, donc la région là où il y a l'accident, Jean-Christophe Fiedler, a d'ores et déjà loué quand même les deux réfugiés pour leur, entre guillemets, humanité. Dire que quelques jours plus tôt, ce militant et ses amis néo-nazis, dont Mélanie Dittmer de Pédiga Cologne, que riposte laïque idolâtre, scandait dans une manifestation que les réfugiés accueillis en Allemagne étaient des envahisseurs, des parasites sociaux ou encore des primates sans foi ni loi. Ce fait divers apparemment anodin a déchaîné l'hilarité sur les réseaux sociaux allemands. Face à cette ironie du sort, certains se demandent si ce député va changer d'opinion. Alors oui, son accident n'aura pas été vain, affirme une lectrice de Frankfurter Rundschau. Continuera-t-il à poster sur Facebook que l'intégration est un génocide, dire qu'il aurait pu y rester? Un député des Verts commente sur Twitter, voilà le genre d'histoire dont on dit que si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et la palme du meilleur commentaire revient aux camarades du Blockupy qui ont écrit ceci sur Twitter. L'Allemagne reçoit une leçon de civilisation, des réfugiés syriens prodiguent les premiers secours à un cadre néo-nazi. Donc voilà pour la belle petite histoire.
C'est pas mal.
Ouais, pas mal du tout. Un autre article trouvé sur le net, écrit du coup par William Blanc et Christophe Naudin, donc qui sont des historiens, qui sont les co-auteurs de Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. On sait que c'était un des événements qui est mis en avant par les identitaires. Et donc du coup là, le titre c'est « Comment Philippe de Villiers récupère le mythe de Jeanne d'Arc ». Le récent rachat d'une bague attribuée à Jeanne d'Arc par Philippe de Villiers constitue un événement révélateur d'une utilisation symbolique de l'histoire, avec un grand H, à des fins mémorielles, politiques et économiques. Il ne s'agit pas de savoir si l'anneau a véritablement appartenu ou pas à Jeanne d'Arc, même si les spécialistes émettent de sérieux doutes quant à son authenticité. Notons simplement que cette découverte a lieu alors que nous avons fêté, enfin pas nous en tout cas, mais certaines personnes, en 2012, le 600e anniversaire de la naissance de cette fameuse Jeanne d'Arc qui devient par conséquent l'objet de véritables enjeux. Politique tout d'abord, depuis le début du XXe siècle avec l'action française de Charles Maurras, Jeanne d'Arc a été accaparée par l'extrême droite qui en fera sous Vichy une égérie de l'antisémitisme. Aujourd'hui, la nouvelle fièvre johannique doit se comprendre dans la perte d'influence du catholicisme au sein de la société française. Réactiver la figure de la jeune martyre revient à affirmer que la France serait par nature une nation chrétienne. Jeanne d'Arc, tuée par des Anglais, en fait de nombreux sujets du Royaume de France ont participé à sa capture et à son procès, sert aussi à mobiliser les foules d'hier et d'aujourd'hui contre la figure de l'étranger. Pour l'action française, ce fut le juif. En ce début de XXIe siècle, ce sont les migrants, migrantes et les musulmans musulmanes qui viendraient détruire les fameuses racines chrétiennes de la France. On remarque en effet depuis le début des années 2010 une véritable stratégie de reprise en main de la figure de Jeanne d'Arc par la droite extrême. En 2012, Patrick Buisson, ancien rédacteur en chef du journal Minute, convainc Nicolas Sarkozy d'organiser une cérémonie pour l'anniversaire de la naissance de la Sainte catholique. En 2014, Philippe de Villiers publie son roman de Jeanne d'Arc, applaudi par Éric Zemmour. En janvier 2016, Jacques Trémollet de Villiers, proche de l'ancien ministre, publie les minutes du procès de Jeanne d'Arc, pourtant disponible gratuitement sur Internet. Quelques semaines après, il découvre la vente aux enchères de l'anneau et persuade le fondateur du Puy du Fou de l'acheter pour l'exposer à la foule le samedi 20 mars, avant de le déposer dans une chapelle. Pas un historien ou encore moins les spécialistes de Jeanne d'Arc ne s'est associé à ce spectacle. Seul un journaliste d'Europe 1, bien connu pour ses prises de position en faveur d'un récit national identitaire, donc ce fameux Franck Ferrand, s'est prêté au jeu en affirmant qu'il fallait aborder le passé avec une part de foi. C'est quand même magnifique dans une radio. La foi et l'émotion contre la réflexion, l'ancienne est bien connue car Philippe de Villiers et ses amis ont également en ligne de mire les historiens et le service public de l'histoire en France. En effet, depuis plusieurs décennies, nombre de professionnels de la recherche historique comme Colette Beaune, Olivier Bouzy, Philippe Contamine, Gerd Groumard ont donné une vision plus complexe de Jeanne d'Arc. Était-elle une patriote? Pas dans le contexte médiéval où le concept de nation n'en est qu'à ses balbutiements et qu'une partie des sujets du Royaume de France, parisien en tête, se rallie sans complexe à l'alliance anglo-bourguignonne. Si Jeanne d'Arc se bat pour remettre sur le trône Charles VII, c'est qu'elle pense le roi Valois être le seul à mériter ce titre parce que sa famille est élue par Dieu. Oui, on peut y croire. Cela n'empêche pas les plus hauts représentants de l'Église du Royaume de la condamner lors de son procès. Si elle a été réhabilitée après sa mort dans un procès qui vient parachever la défaite définitive de la monarchie anglaise dans la guerre de Cent Ans, il faut attendre le XXe siècle pour qu'elle soit béatifiée, puis canonisée quand même, afin de réaffirmer les racines d'une France qui vient de promulguer la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, donc voilà un petit peu sur ce truc sur Philippe de Villiers qui est encore ridicule encore une fois, mais ça on le savait. Et puis on fera les autres choses plus tard, la semaine prochaine. J'avais un petit article, on en parlera sûrement plus tard, en Espagne où la gauche radicale Podemos Et il me semble la CGT aussi, une des CGT espagnoles et intellectuels locaux qui suivent les traces de Dieudonné en soutenant un journal antisémite. On fera aussi un petit point sur une enquête menée par notamment Mediapart avec les preuves de la sauvagerie des proches du Front National. On a l'habitude de vous raconter un peu les violences de l'extrême droite sur des militants militantes, sur des réfugiés, des migrants et des migrantes. Et ben là, ils arrivent à se taper sur la gueule aussi entre eux et pas mollement. Donc on en parlera tout à l'heure parce que ça reste aussi intéressant sur leur stratégie.
Mercredi.
Hein?
Pas tout à l'heure.
La semaine
mercredi.
Prochaine, j'ai dit ouais, tout à l'heure. Bah, je reste, ça, je vais prendre un après, on verra. Et donc, du coup, pour finir, on vous donne rendez-vous demain dans la rue. Donc, ça se passe à partir de 13h30, départ manufacture des tapas en direction de la place Bellecour. Donc, manifestation pour le retrait pur et simple de la loi travail. Ça se poursuivra dans la soirée avec des appels à occupation de place et ça se poursuivra sûrement aussi dans la rue dans les jours qui viennent avec, on espère, des grèves reconductibles, des blocages économiques, etc., etc., pour enfin faire céder le gouvernement. Et on vous invite à nous rejoindre dans notre cortège demain à la manifestation.
Voilà. Donc à demain. Et on va laisser la place à la lumière du frigo. Et on vous dit donc à la semaine prochaine, évidemment. Et pas à tout à l'heure. Comme, voilà. Salut!